Bonsoir Bernard Minier.
Bonsoir.
On est avec vous pour Rupture, qui est sortie aux éditions XO, avec un sous-titre, une enquête de Lucia Guerrero, que nous connaissons déjà. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut attendre de la justice aujourd'hui?
Oula, ça commence fort. Waouh. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la justice? Ben, j'espère plein de choses, mais la justice américaine ou la justice française ou la justice espagnole?
Eh bien, dites-moi.
C'est pas exactement les mêmes.
Je vous en prie, on a une heure.
Merci. Merci du cadeau. Ben, en fait, les justices espagnoles et françaises, elles se ressemblent quand même pas mal. Déjà, le fonctionnement, alors dans un roman policier comme celui-là, il y a quelque chose qui est commun aux deux justices, qui est le juge d'instruction, qui n'existe pas forcément dans certains pays. Aux États-Unis, par exemple, ce sont les procureurs qui mènent l'instruction, qui mènent l'enquête. En Suisse, puisque j'étais il n'y a pas longtemps, j'ai croisé Nicolas Feuze, auteur de Polar Suisse bien connu, c'est un peu, et ex-procureur en plus, c'est un peu la même chose. Donc il n'y a pas cet échelon qui est le juge d'instruction qui est la garantie d'une certaine indépendance de la justice, justement, puisqu'on a en France la magistrature assise et la magistrature debout, c'est-à-dire le parquet qui est inféodé au ministère et le juge d'instruction qui, lui, au contraire, a une grande indépendance et une grande latitude dans les démarches qu'il peut mener. Donc je pense qu'on est plutôt bien loti par rapport à certains pays, il me semble.
En même temps, quand on regarde du côté de Bruxelles, en tout cas dans votre livre, on voit bien que les lois, les décisions ont quand même quelque chose d'opaque.
Ah oui, alors ça, c'est pas la justice dans son fonctionnement, c'est la loi, c'est autre chose. C'est, ouais. La loi, elle n'est pas faite par les juges.
Non.
La loi est faite par les politiques. Bah oui, parce qu'en fait, à Bruxelles, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des trilogues. Ce sont des comités, ce sont eux, en fait, qui décident des lois ou qui les définissent. Et ce sont des experts, souvent, et il y a aussi des élus européens. Sauf que les élus européens, c'est devenu tellement complexe aujourd'hui. Effectivement, Bruxelles, c'est devenu tellement opaque que, quelque part, il y a 10-20 ans, les lobbyistes qui se rendaient à Bruxelles, qui se rendaient auprès de la Commission européenne, c'était des techniciens. Par exemple, un lobbyiste du Bordelais, c'était un spécialiste des vins de Bordeaux, des vignobles, de l'économie du Bordelais, etc. Aujourd'hui, il faut à la fois que ce soit des techniciens et qu'ils aient une connaissance très pointue de la façon dont ça fonctionne. Parce que c'est devenu de plus en plus opaque, c'est de plus en plus compliqué. Et aujourd'hui, être un simple technicien, c'est pas possible. Il faut être bien plus que ça pour être lobbyiste à Bruxelles et comprendre le mécanisme de tout ça. Effectivement, il y a vraiment une grande opacité à Bruxelles aujourd'hui.
Mais quand même, vous, dans votre livre, on le voit bien, puisqu'on est plongé directement au cœur de Bruxelles et en même temps de juridictions différentes, entre Madrid et les États-Unis. Et on voit bien que la justice a quand même du mal à tenir debout, justement, dans cette ambiance, j'ai envie de dire. Parce que finalement, votre livre, à nouveau, décrit une ambiance.
Oui, c'est-à-dire que ça démarre en effet à Madrid, et puis ensuite, on va se rendre à Bruxelles pour quelques chapitres. C'est assez court, finalement, le passage à Bruxelles. C'est surtout une enquête madrilène au départ, avec cette personne, Emma Bosch, qui travaille pour une multinationale américaine de la tech, qui est assassinée, et on découvre qu'elle était enceinte, et ça va avoir beaucoup d'importance pour la suite. Et donc l'enquête ensuite se porte à Bruxelles, et ensuite on va partir aux États-Unis. Et c'est là qu'on a une ambiance très différente, en fait. Il y a un changement, parce qu'on est dans l'Amérique, ça se passe en 2025, ça démarre avec la fameuse grande panne électrique qui a paralysé l'Espagne le 28 avril 2025. Et quand on arrive aux États-Unis, on est dans l'Amérique de Trump. Et ça change tout. Parce que moi, j'ai été plusieurs fois en Amérique. J'étais à Los Angeles il y a 2 ans. J'ai été à Seattle déjà une première fois pour une putain d'histoire, un livre qui se passait finalement dans la même région que Rupture. Et c'était pas l'Amérique d'aujourd'hui. L'Amérique d'aujourd'hui, c'est une toute autre Amérique que celle qu'on a connue. Mais sache que tout le monde en est conscient.
Alors, dans votre livre, vous démarrez votre livre avec un avertissement en disant que peut-être des personnages ressemblent à des personnages connus. Bon, ouais. En fait, on met quand même à peu près 5 secondes à comprendre de qui il s'agit. Et on s'amuse beaucoup.
D'accord, 5 secondes si on a l'esprit lent.
Ouais. C'est ça. Et en même temps, donc, on s'amuse beaucoup. Il y a... dans votre livre, cette fois-ci particulièrement, quelque chose à la fois d'effrayant et en même temps très jubilatoire.
Ben oui, alors c'est pas moi, c'est pas un exutoire. Hein. Je me suis pas servi de mon de ce livre pour lâcher tout ce que j'avais sur le cœur.
Non.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. C'est pas les opinions, c'est vraiment les faits. C'est Timothy Snyder qui a écrit De la tyrannie, un livre que j'invite tout le monde à lire aujourd'hui, qui dit « Abandonner les faits, c'est abandonner à la liberté ». Donc, c'est, de ce point de vue-là, oui, c'est jubilatoire dans la mesure où moi, j'ai découvert plein de choses, en réalité. J'ai enquêté, j'essaie d'aller au-delà de ce qu'on entend sur les chaînes d'info, sur les chaînes YouTube, etc. J'essaie toujours d'en savoir un petit peu plus, un petit peu plus. Et j'ai découvert plein de choses absolument à la fois terrifiantes, fascinantes, incroyables, non seulement sur le personnage qui inspire Milton Gale, mon multimilliardaire, innovateur, génie, créateur, etc., qui effectivement envoie des fusées dans l'espace, a inondé la planète de ses voitures électriques Volta, dit des horreurs sur son réseau social, son modèle, qui est déjà un personnage romanesque en lui-même.
Oui, absolument.
J'ai découvert effectivement plein de choses absolument incroyables sur ce personnage qui est vraiment fascinant, même s'il a ce côté obscur qui est aussi très inquiétant.
Oui, oui. Mais nous aussi, on découvre beaucoup de choses. D'ailleurs, on se demande, alors à la fin, vous publiez les livres, effectivement, dont vous parlez, une partie des livres, enfin, de vos sources, en tout cas.
Oui.
Et on se demande ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, parce que parfois, on tombe un peu de sa chaise quand on vous lit.
C'est ça, l'intérêt de... En fait, oui, l'idée, c'est... On ne sait pas trop quand on est dans la fiction,
voilà,
même si le personnage est fictionnel, et quand on est dans la réalité. Par exemple, l'un des sujets principaux de Rupture, c'est même pas la natalité, c'est le natalisme. Cette obsession qu'ont ces gens de la Silicon Valley et de la tech, qu'il faut repeupler, qu'il faut faire des enfants, parce que sinon la civilisation est menacée. Ça fait partie de leur idéologie, je pense qu'on y reviendra, leur idéologie, il y a beaucoup à dire dessus.
Ouais.
Et j'ai découvert, effectivement, alors il y a eu des articles qui sont parus à droite à gauche, que ces gens-là font des enfants partout. En fait, c'est en fait de la fécondation in vitro. Pavel Durov, par exemple, qui est le fondateur de Telegram, a reconnu avoir plus de 100 enfants à travers le monde, sans avoir de rapport particulier avec les femmes qu'il a fécondées. Et il y a eu aussi un article de The Atlantic, un autre du Wall Street Journal, où des femmes ont témoigné qu'elles ont été approchées par Elon Musk pour les mêmes raisons. Il les repère sur les réseaux sociaux et ensuite il leur propose 15 millions de dollars pour porter son enfant. Enfin, ils sont obsédés par la natalité. Ils estiment qu'eux-mêmes étant des gens importants, intelligents, brillants, oui, etc., autant qu'ils fassent eux-mêmes les enfants plutôt que... Et dans la Silicon Valley, il y a vraiment cette idéologie qui est générale, où on a des gens qui travaillent dans la Silicon Valley qui transforment leur maison en pouponnière, quoi. Ils font plein d'enfants. C'est une nouvelle... parce qu'en fait, ils estiment que le vieillissement des populations... Le diagnostic, en réalité, est assez juste. Les populations vieillissent partout dans le monde. Non seulement le seuil de reproduction n'est plus atteint non seulement dans les pays occidentaux, mais en Chine, en Inde, un peu partout. Et donc, il y a une véritable menace que la population vieillisse, décline. Et donc, le diagnostic est assez juste, mais eux, c'est presque de l'eugénisme. Pour eux, ce sont d'abord les gens intelligents, les gens brillants, la crème, selon eux, qui doit faire des enfants. Et en grande quantité.
Le problème de cette idéologie, on le voit bien dans votre livre, c'est d'abord l'excès, d'une part, et d'autre part, c'est aussi une sorte d'entre-soi qui tient quand même avec un élément essentiel, qui est quand même l'argent.
Qui est, pardon ?
L'argent.
Ah oui, bah oui. Bah, c'est-à-dire que quand vous avez une idéologie, alors il n'y a pas que ça, c'est l'idéologie qui sous-tend ces géants de la tech, c'est ce qu'on appelle la néo-réaction. La néo-réaction, c'est une idéologie qui refuse ou qui n'aime pas la démocratie, qui critique les élites intellectuelles, les médias mainstream, qui refuse l'universalisme, qui est pour la décentralisation, voire même la disparition de l'État, qui serait remplacé par l'économie de marché qui régulerait tout ça, et qui est d'un optimisme technologique débridé, c'est-à-dire qui pense que la science et la technologie peuvent tous solutionner. Et qui sont obsédés par la natalité ou le natalisme. Et quand on a une telle idéologie, et qu'en plus, on est devenu les gens les plus puissants du monde, parce qu'aujourd'hui, ils sont les gens les plus puissants du monde, ils ont des moyens financiers colossaux, Elon Musk est l'homme le plus riche du monde à l'heure actuelle, et il n'est pas le seul, dans la Silicon Valley, ils sont nombreux. Ils ont, par la technologie aujourd'hui, dont on est tous désormais dépendants, un pouvoir considérable sur des milliards d'êtres humains, c'est-à-dire bien plus que les États. Là, ça concerne quasiment l'humanité entière. Tout le monde a un téléphone, son petit téléphone, cet objet-là dans la poche. Tout le monde, moi je viens de prendre le train pour venir aussi, a le nez collé sur son écran et son téléphone. Tout le monde a utilisé toutes ces applications, tous ces outils, et chaque fois que vous faites ça, vous leur donnez du pouvoir. Et donc, ils sont en train finalement de décider du destin des peuples et de l'humanité grâce à ce pouvoir qu'ils ont acquis considérable, grâce aux moyens colossaux financiers qu'ils ont. Et cette idéologie, mais il faut savoir que l'idéologie qu'ils veulent nous imposer, c'est disparition de l'État. C'est plutôt que les médias mainstream, ils préfèrent des micros comme ça, des bulles informationnelles où chacun prend ce qu'il veut. Et ils sont contre l'universalisme. Ils sont voilà, ils veulent. C'est aussi ce qu'on appelle des anarcho-capitalistes, c'est des anarchistes du capitalisme. On fait disparaître l'État, on fait disparaître les lois, et après c'est le marché qui s'autorégule.
En réalité, James Bond n'est plus une fiction.
James Bond, je sais pas, mais Elon Musk, c'est plutôt. Moi, je verrais plutôt dans Elon Musk, comment il s'appelle ce personnage des films Marvel interprété par Robert Downey Jr., Tony Stark,
ah oui.
Iron Man. C'est plutôt ça en fait. D'ailleurs, il est apparu dans un des films de la saga. Il y a un film où Tony Stark serre la main d'Elon Musk. Alors, je répète, c'est un personnage fictionnel, Milton Gale, c'est pas Elon Musk. Il y a des aspects, beaucoup d'aspects qui lui ressemblent, il y a des aspects qui sont imaginaires. Déjà parce que je ne veux pas avoir un bataillon d'avocats à ma porte demain. Donc voilà, donc je précise, c'est un personnage de fiction.
Après avoir écrit ce livre, est-ce que votre regard sur la société a changé? Est-ce que vous avez perdu un peu de votre optimisme?
Alors j'étais déjà pas très optimiste au départ, donc ça n'a pas aidé. J'étais à peu près conscient de tout ça. Hein, quand j'ai commencé à enquêter, si j'ai voulu écrire ce roman, c'est parce que j'avais justement... je sentais quand même, enfin, je suis pas le seul, hein, je prétends pas avoir, il y en a beaucoup comme moi. Mais là, pour le coup, j'ai creusé, et je pense que c'est encore beaucoup plus inquiétant que ce qu'on pensait. Parce qu'il y a aussi le sujet dans le livre qui est abordé, qui est périphérique, qui n'est pas le centre du livre. Mais il y a aussi le sujet des robots, il y a le sujet de l'intelligence artificielle.
Ouais.
Tous ces sujets-là sont, là, pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui même, mardi, on est combien déjà ? 14 avril, c'est ça. Mardi 14 avril. Anthropix, la grande entreprise de la tech Anthropix, le géant de la tech Anthropix, a reporté la sortie de sa nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle Claude Mythos, parce qu'elle représente un danger pour la cybersécurité mondiale. Ils se sont aperçus que Claude Mythos est capable en très peu de temps de trouver des milliers de failles extrêmement dangereuses dans tous les systèmes informatiques grand public utilisés aujourd'hui. Du coup, ils ont eux-mêmes reporter la sortie, parce que sinon ça va être un chaos absolu. Tous les hackers, tous les pirates, tout le monde va pouvoir... tous les systèmes informatiques qu'on utilise à ce jour vont être... ça va être porte ouverte pour tous les... Ils viennent d'annoncer, on reporte la sortie, c'est trop dangereux pour la sécurité, cybersécurité mondiale. Vous vous rendez compte ? On dirait de la science-fiction. Mais ça vient d'avoir lieu aujourd'hui.
Dans votre livre, on apprend beaucoup de choses, notamment sur le bilan carbone de ChatGPT, quand en tout cas on n'est pas complètement calé. Les data centers,
oui, bien sûr.
Voilà, on apprend beaucoup de choses sur... il y a des détails sur le bilan carbone des jets privés, voilà, sur le nombre de vols qui sont totalement effrayantes. Et on apprend effectivement des choses sur ces avancées technologiques qui mettent en question, une question fondamentale, qui est celle du confort. Du confort avec lequel on ne peut plus reculer.
C'est ça, en fait. On était tellement habitué à tout ça. On est tellement... Qui va renoncer à tout ça? Qui va dire, maintenant, j'arrête tout? Alors, je sais qu'il y a tous les partisans de la décroissance et tout, qui eux-mêmes commencent à donner l'exemple, mais ils sont ultra minoritaires. C'est ça.
Et puis surtout, la question, c'est, est-ce qu'il peut avoir du poids? Est-ce qu'il est possible d'avoir du poids face...
Dans la mesure où ils sont minoritaires, ils ont aucun poids. Pour avoir du poids, il faudrait qu'on le fasse tous, ou une grande partie d'entre nous, et qui va le faire? Si on se mettait tous à dire, on refusait telle ou telle chose, oui, là, à ce moment-là, ça aurait du poids. Mais qui va renoncer à WhatsApp? Qui va renoncer à son téléphone? Qui va renoncer à l'usage qu'il fait d'Internet? Il y a des solutions. À la place de Google, vous avez d'autres moteurs de recherche. À la place de WhatsApp, vous avez aussi Signal, par exemple. Vous avez des plein de choses. Mais qui va renoncer à... Le problème de... Le seul moyen qu'on aurait peut-être en Europe, parce qu'il y a quand même... Il faut quand même... Il y a beaucoup à dire sur l'Europe, mais l'Europe est quand même l'Union européenne, la Commission européenne, c'est quand même la première entité qui a essayé de réguler tout ça avec ce qu'on appelle le Digital Service Act, qui impose... D'ailleurs, en ce moment, les géants de la tech sont vent debout contre l'Europe à cause de ça. Ben, le seul moyen, ça serait d'avoir des intelligences artificielles comme Mistral, hein, la boîte française, ou des réseaux sociaux qui remplaceraient Facebook, qui remplaceraient Instagram et qui seraient européens. Mais on a pris tellement de retard. Je sais même pas si c'est possible un jour. Tellement ils sont en avance et tellement ils ont imposé leur modèle à l'humanité entière.
Et en réalité, dans ce livre, la cible menacée, c'est nous, c'est le lecteur.
Bah bien sûr. Bah, de toute façon, dans la mesure où ils veulent décider de notre destin commun sans nous demander notre avis, évidemment que la cible c'est nous, c'est chacun d'entre nous, c'est notre avenir qui est les futures générations qui sont la cible de tout ça. Et puis alors il y a plusieurs questions dans le livre parce que je pense que dans le bouquin la cible c'est plutôt les femmes.
Enfin. Oui. Alors dans le bouquin sont les femmes, mais c'est bien plus que ça. C'est-à-dire que là, vous êtes dans ce livre-là particulièrement fort. C'est pas la première fois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de croisements. Et au final, quand on ferme le livre, alors c'est peut-être aussi parce que je suis une femme. En tout cas, je me sens concernée. Il y a les femmes d'abord parce que vous les mettez une fois de plus à des places très importantes avec des personnages assez puissants qui sont face à des mâles alpha extraordinaires quand même une fois de plus. Et notamment dans mes questions, j'aimerais savoir comment vous définissez ces personnages féminins. Mais en même temps, pas seulement parce qu'on se rend compte que les femmes finalement essayent de réagir.
Oui, mais alors c'est pas gratuit si j'ai choisi ces personnages féminins là, puisque les victimes sont des femmes enceintes, comme je l'ai dit au départ, on sait pas qui est le père ou qui sont les pères, ils se manifestent pas. L'enquêtrice est une femme aussi, Lucia Guerrero. Et puis il y a cette question de la natalité, c'est pas un hasard, c'est parce que pourquoi j'ai choisi que les victimes soient les femmes, et on va comprendre à la fin du livre pourquoi ces femmes là ont été victimes, évidemment. Parce que ces géants de la tech, aujourd'hui, dans leur idéologie, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, il y a tout ce que j'ai dit, mais il y a aussi le masculinisme. Aujourd'hui, ce sont déjà, c'est presque tous des hommes qui sont à la tête de ces grandes ces entreprises géantes et ultra-puissantes. Et en plus, aujourd'hui, ils sont tous cette idéologie de néo-réactionnaire, c'est aussi une idéologie masculiniste. C'est-à-dire, à la limite, la femme à la maison, et voilà, ils en sont pas là, mais presque. Et le cas le plus parlant et le plus frappant, c'est celui de Mark Zuckerberg, qui était progressiste il y a 5 ans et qui, tout d'un coup, nous tient un discours viriliste. Oui, les hommes, il faut que ceci... Il a complètement retourné sa veste. Donc, c'est ça, finalement, le sujet du livre. C'est ça, c'est quelle va être la place des femmes dans cet univers que c'est macho, quoi. Enfin, c'est masculiniste, nous prépare. Quelle va être la place des femmes? Et en plus, on voit à travers cette obsession de la natalité, le fait que Pavel Durov fasse des enfants à droite à gauche, que Elon Musk fasse, ou Milton Gale, pardon, fasse la même chose, c'est ils achètent des ventres, en fait. C'est-à-dire que c'est l'instrumentalisation aussi du corps de la femme qui est au centre du livre. Du reste, même Lucia va affronter, on va pas en dire trop, mais va affronter quelque chose qui est dans son corps et qui remet aussi quelque part qu'il a qui donc on a c'est vraiment le pour moi c'est le cœur du livre ce rapport entre les femmes et cet univers de la tech qui est ultra masculiniste et qui est en train de et qui infuse aussi dans les nouvelles générations. On voit à travers ces discours qui sont sur YouTube aussi, qui sont un peu partout, on voit que même chez les très jeunes ça commence à infuser, hein, ce discours masculiniste.
C'est la raison pour laquelle le fils de Lucia, vous le présentez comme comme finalement quelqu'un qui est fasciné par
Milton Gale. Oui, ben bien sûr, parce qu'il est fasciné par la technologie, comme beaucoup de jeunes du reste. Il est fasciné par ce personnage innovateur, créateur, qui est un génie, ça on peut pas le nier. Et c'est ce qui est intéressant, c'est le rapport avec sa mère, Lucia, qui lui dit oui, mais alors qu'est-ce que tu penses de. Parce que par exemple, il est aussi obsédé par Mars, Milton Gale. Et donc, il estime qu'à terme, l'humanité, s'il reste sur Terre, est condamnée, qu'on ne pourra pas la sauver. Donc, le seul moyen, c'est d'aller sur Mars. Discours qu'on reconnaît étant comme étant celui de son modèle. Et sa mère lui dit, mais alors qui va aller sur Mars? Parce qu'on ne pourra pas tous y aller, on est 7 milliards, voilà. Enfin, 8 bientôt. Et il dit, bah, les plus aptes, les plus brillants, etc. Et donc, elle lui dit, donc moi, je vais rester ici. Et là, Alvaro, il est coincé, il ne sait pas quoi répondre. Il s'en rend compte en fait de cette forme d'élitisme, mais c'est pas de l'élitisme, c'est plus que ça.
Oui.
Ouais, que...
Même, en même temps, ce n'est pas la première fois que vous mettez des femmes au cœur de vos livres, même si cette fois-là, c'est pour le coup vraiment particulièrement central.
Ouais.
Est-ce que le fait d'avoir écrit des polars vous a amené petit à petit aussi à considérer les personnages féminins d'une façon particulière, justement parce que l'univers, les univers que vous abordez, vous invitent à constater une forme de barbarie vis-à-vis des femmes?
Ben, la violence faite aux femmes, je l'ai souvent abordée, oui, effectivement. C'est un sujet que j'ai abordé dans le précédent, les effacer. Parce que les victimes étaient aussi des femmes,
oui,
par
oui.
hasard. En fait, c'est quasiment pas délibéré. C'est presque instinctif, c'est presque inconscient. Je m'aperçois, une fois que le livre est rédigé ou qu'il est bien entamé, que finalement, j'ai choisi un sujet qui rejoint celui du livre précédent. Les effacer, c'était... des femmes en Galice qui étaient kidnappées sur le chemin du travail tôt le matin et qu'on retrouvait les corps ensuite. Oui, alors après, ça, il faut pas tomber non plus dans le stéréotype de la femme victime et trop victimisée. Les femmes sont dans le livre, les femmes sont fortes aussi, elles réagissent, elles se battent. Dans certains de mes livres, elles sont même plus fortes que les hommes. Je me rappelle un roman que j'ai écrit il y a très longtemps qui s'appelait N'éteins pas la lumière.
Ouais.
Où là, on a vu un personnage qui était victime de harcèlement et ça allait très très loin.
Absolument.
Et on s'apercevait en lisant l'épilogue, je m'étais fait la réflexion qu'en fait tous les hommes avaient été faibles et toutes les femmes avaient été fortes. Et je l'avais même pas fait de manière délibérée.
Oui, oui.
C'était sorti comme ça.
Non, et puis là, les femmes, comme vous le dites, elles sont enceintes, mais elles sont aussi à des postes très importants.
Oui.
Lucia, elle est lieutenant, et donc elle, c'est elle qui décide et qui prend des décisions. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs. Mmh. Vous campez quand même un personnage, je le disais tout à l'heure, dans lequel les femmes sont menacées, mais elles sont aussi fortes. Et puis surtout, elles sont morales.
Oui, après, ça dépend lesquels. Hein.
Oui. Et quand même, globalement,
oui.
Vous leur accordez plus facilement une moralité qu'aux hommes.
Ah, je crois pas, non. Parce que si je fais ça, alors là, moi, ça devient caricatural. Je pense pas qu'il y ait plus d'innocents ou d'innocentes.
Dans ce livre-là,
oui.
Les femmes sont prêtes à s'engager à un moment donné.
Oui, mais enfin, je vais pas spoiler, mais il me semble qu'il y en a quelques-unes qui sont...
Il y en a quelques-unes qui sont pas, mais je trouve que vous leur donnez quand même une certaine résistance. Bon, alors, sur la fin, il y a des... Alors, à propos des criminels, en tout cas, masculins,
Oui.
Vous écrivez une phrase assez intrigante dans votre livre. Vous dites que les criminels, ils sont prêts à se repentir quand ils sont en mauvaise posture. Mais dès que ça va mieux, ils oublient.
Ben c'est ça. Ouais, ouais.
C'est le cas ?
Ah mais c'est bien connu. Quand vous êtes des criminels pour des délits ou des crimes qui très différents les uns des autres, qui se retrouvent coincés en garde à vue ou des choses comme ça. Alors pas des voyous super endurcis qui ont l'habitude de passer devant le juge ou devant les policiers. Hein. Et tout d'un coup, ils se mettent « Ah, je ne ferai plus je... ». Mais même quand vous êtes prison, c'est comme quand on est un enfant. Hein. On est pris en faute. « Ah, je ne ferai plus, c'est promis. » Et puis, une fois que c'est terminé, il passe une journée, on recommence. C'est un peu le...
Ah, mais ça, c'est habituel.
C'est un principe humain qui me semble assez général.
D'accord. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de peur? Ça veut dire que le criminel n'a peur de rien?
Ah non, pas du tout. Les criminels ont peur comme les autres. Ça dépend de quoi. Des gens ont peur d'aller en prison, pour certains, pas tous. Dans Rupture, on va pas dire qui sont les criminels, les vrais criminels et qui sont les faux. Mais il y a quand même une peur. Le mobile, quelque part, de ces crimes, c'est la peur de la lumière qui va être faite sur quelque chose.
Et vous avez peur de quoi?
Ah ah. J'aide qu'on arrête de me lire.
C'est vrai.
On a tous l'angoisse qu'un jour tout ça s'arrête. C'est merveilleux d'avoir autant de lecteurs, mais est-ce que ça peut pas durer éternellement? On connaît tellement de cas d'auteurs de romans policiers qui ont eu beaucoup de succès à un moment donné, et puis petit à petit, peut-être parce que la mode a changé ou parce que les lecteurs sont passés à autre chose. Moi, je dis souvent, les auteurs de polar, c'est comme les pots de yaourt. Ça, il y a une date de péremption, mais c'est variable.
D'accord.
Mais le plus tard possible.
Dans votre livre, il y a donc des personnages masculins à un moment donné qui vont dévoiler leur peur et quelque part leur vulnérabilité.
Ouais.
Bon, ils ont quand même, on a l'impression qu'ils ont la conviction qu'il faut lutter avant d'apparaître vulnérable. Quel rapport vous avez avec la vulnérabilité?
Je me sens par moments très vulnérable, et en particulier en ces temps qu'on traverse, là qu'on vit, parce que c'est, alors ça c'est dit dès le départ du livre, avec cette grande panne électrique à Madrid où tout s'arrête, où un pays entier s'arrête. C'est-à-dire que moi je l'ai vécu, hein, j'étais en relation avec une personne qui se trouve à Madrid au moment où c'est arrivé, et pendant des heures et des heures, c'était l'incertitude la plus absolue. Et il n'y avait plus d'internet, il n'y avait plus de réseau téléphonique, les magasins baissaient leur rideau de fer parce que les caisses enregistreuses ne marchaient plus, les cartes bancaires ne marchaient plus, enfin les trains étaient à l'arrêt en race campagne, etc. Et qu'est-ce que ça a dit de... Ça a dit que, et c'est moi, c'est ma grande peur en fait, ça a dit que nos sociétés de plus en plus technologiques, de plus en plus connectées, sont de plus en plus vulnérables. On le voit bien, on a développé Internet partout et on a mis de l'Internet partout, alors que l'Internet, il est fragile aussi. Hein. Il y a des câbles sous-marins qui permettent de le faire circuler, il y a des nœuds, il y a des serveurs, il y a des choses, tout ça, demain, si quelqu'un arrive à... Et aujourd'hui, avec l'IA, c'est pareil, on est en train de mettre de l'IA absolument, de l'intelligence artificielle absolument partout. Or, même ceux qui fabriquent les intelligences artificielles reconnaissent qu'ils n'ont qu'une compréhension limitée de leur fonctionnement interne. C'est ceux qui les fabriquent, ils le disent. L'exemple, c'est un des exemples, c'est le chatbot de Microsoft qui s'appelle, enfin, c'est Bing, qui s'est mis il y a presque trois ans maintenant à insulter ses utilisateurs. Personne ne sait pourquoi il a fait ça. Même ceux qui l'ont fabriqué, ils savent pas et ils n'arrivent pas à trouver en plus. Ça fait 3 ans et on sait toujours pas pourquoi du jour au lendemain Bing s'est mis à insulter ses utilisateurs. Donc même eux ont une compréhension, ils le reconnaissent. Ouais. Les processus de développement des IA, par exemple, induisent une compréhension limitée, font qu'on, ils savent eux-mêmes qu'ils ont une compréhension limitée de ces intelligences artificielles, pardon, que en plus ils ne peuvent pas garantir qu'elles se comporteront toujours de la manière souhaitée. On a 100 ou 1000 exemples aujourd'hui que c'est pas toujours le cas.
Ah ouais.
Qu'ils ne peuvent pas garantir que c'est sans risque pour la sécurité. On le voit avec Anthropique, comme je viens de dire, qu'aujourd'hui reporte la sortie de sa nouvelle IA parce qu'ils ont peur que ce soit une catastrophe mondiale. Et malgré tout, l'an dernier, ils ont investi entre 60 et 100 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Ils construisent des data centers partout. C'est-à-dire qu'ils foncent sans sécuriser les trucs. Donc on est dans des sociétés comme ça, et c'est dans le domaine de l'IA comme dans plein d'autres domaines. On est en train de foncer à marche forcée, c'est le progrès à marche forcée, et on sait que c'est pas sécurisé derrière, et que nos sociétés sont de plus en plus vulnérables. Donc moi, ça m'inquiète. Moi, cette vulnérabilité-là, je la ressens.
Et selon vous, pourquoi ?
Parce que, en fait, c'est le principe même des startups et de ce milieu de la tech, c'est que le premier qui sort le bon produit... à gagner et raflamise. C'est en fait, il y a pas, c'est comme ça que ça se passe. Ça s'est passé comme ça avec Facebook, ça s'est passé comme ça avec TikTok. C'est le premier qui arrive à produire qui va produire l'intelligence artificielle la plus performante, la plus absolue, qui va rafler la mise. Et les autres, ils auront que leurs yeux pour pleurer. Donc, c'est une concurrence féroce pour être le premier arrivé.
Et selon vous, qu'est-ce qui fait que personne, enfin, qu'il n'y ait pas un sens moral commun partagé qui fait que ça s'arrête?
Alors déjà, il y a d'une part le fait que tout le monde n'est pas forcément conscient de ce qui se passe en coulisses, de la vulnérabilité que tout ça représente, de la dangerosité de toutes ces IA, etc., même si on a de plus en plus conscience, puisqu'on en parle de plus en plus. Deuxièmement, il y a le fait que c'est tellement pratique d'utiliser toutes ces choses. On n'a pas envie d'y renoncer, quoi.
C'est tentant.
C'est extrêmement tentant. C'est... Oui. Et troisièmement, il y a finalement le fric. C'est aujourd'hui l'économie américaine se porte bien grâce à ça, hein, grâce à la tech. Et nous, ce que l'on essaie de faire, c'est de prendre le train en marche, parce qu'on l'a quand même raté, le train. C'est les Chinois et les Américains qui l'ont pris. En fait, on n'a pas le temps de dire stop, on arrête tout et on réfléchit.
C'est trop tard.
C'est trop tard.
Vous parlez des applications dans votre livre en disant que finalement, c'est de la coke.
Oui.
Vous faites cette comparaison-là.
C'est du fentanyl numérique.
Voilà.
Ouais.
Vous dites aussi que beaucoup de jeunes hackers sont complètement inconscients et finalement parfaitement vénales.
Mais l'an dernier, c'est pas qu'ils sont inconscients, c'est qu'ils sont jeunes. Donc quand vous avez 17 ans, il y a un gamin de 17 ou 18 ans à Alicante, je crois qu'il est. Et il a réussi à hacker, alors qu'il a appris tout seul dans sa chambre. Hein. Il n'a jamais suivi de cours, on ne lui a jamais expliqué comment faire. Il a réussi à hacker la Guardia Civile, le ministère de la Défense, le Pentagone, je crois, je ne sais pas quoi. Il a 17 ans, le gamin. Et ils se sont précipités chez lui et ils ont découvert qu'il avait ouvert plein de comptes de crypto-monnaie. Et donc, et en fait, ils ont 17 ans. À 17 ans, moi, quand j'avais 17 ans, j'ai fait plein de bêtises. Vous, je sais pas, mais moi, en tout cas, j'en ai fait plein. Donc, c'est voilà. Et c'est pas. Et effectivement, ils ont souvent cette compétence en plus. Quant au fait de se décider tous à agir à ça, c'est la question que je posais, qui va le faire aujourd'hui? On est tellement dépendant, en fait. On est dépendant de tout ça.
Ouais.
On a besoin d'Internet.
On est drogué, quoi.
Bah oui, on est coincé. On est leurs otages et leurs cobayes en même temps.
Qu'est-ce qui fait, selon vous, que l'observation de notre société facilite l'écriture d'un polar?
Bah déjà, moi, il me semble que le genre du polar, c'est le genre le plus un des genres aujourd'hui les plus à même de rendre compte de la société dans laquelle on vit. Déjà parce que ça se regarde pas trop le nombril. C'est assez. Et puis, moi, je vais élargir ça au-delà du polar. Hein. Moi, je me considère comme un écrivain réaliste. C'est-à-dire, je pars du réel et je vais vers la fiction. Mais de toute façon, la pure imagination, ça n'existe pas. Donc, on part toujours de. C'est Patrick Modiano qui disait : « Je crois, je pars du concret, je vais vers la fiction. » Ben ouais, c'est le mouvement qu'on fait tous. Et je fais pas trop de différence entre un polar ou un autre genre littéraire. C'est plutôt le roman. En soi, le domaine du roman qui m'intéresse, et c'est une phrase que j'ai souvent prononcée, c'est Milan Kundera qui disait « L'esprit du roman, c'est l'esprit de complexité. Chaque roman dit au lecteur, les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. » Et cette vérité-là, elle existe depuis le premier roman moderne, qui est Don Quichotte. Quand Don Quichotte sort de sa tour, où il croit tout savoir grâce à ses livres, alors c'était des livres de chevalerie à l'époque. Aujourd'hui, ça serait grâce aux réseaux sociaux, sans doute, je ne sais pas. Eh ben, il va se fracasser contre les moulins à vent du réel. Il va se rendre compte qu'il n'y a pas une vérité, mais mille et une vérités contradictoires. Ça, c'est l'esprit du roman. C'est la nuance, c'est les nuances de gris. Alors, pas les 50 nuances de gris. Hein. Évitons. Et c'est ça. Et c'est le roman en général, c'est pas que le polar. Après, le polar, effectivement, il a cette vertu, souvent, qu'on n'est pas là pour ennuyer les lecteurs, quoi. Donc ça avance, c'est un récit. Moi, alors le thème raconteur d'histoire, ça a été tellement galvaudé que je l'emploie pas trop. Mais il y a ça, on est des griots quelque part, on est des conteurs. Et à travers ces émotions qu'on fait naître, parce que le thriller, c'est aussi beaucoup des émotions, on arrive à faire passer des choses, des idées, etc. C'est beaucoup plus facile de faire entrer une idée dans un esprit, dans une tête, par les émotions, que par le raisonnement ou les arguments. C'est ce que font les politiciens tous les jours. Hein. Ils vous demandent pas de réfléchir, ils vous demandent pas de penser. Hein. Ils ont pas envie que vous pensiez trop, réfléchissiez trop à leur discours, parce que sinon vous allez le démonter très vite. Non, ce qu'ils veulent, c'est provoquer votre colère, votre rage, votre peur. Ils sont tout le temps en train de chercher vos émotions.
Donc ça veut dire que, d'une certaine façon, une fois de plus, il y a quelque chose d'un peu militant dans votre écriture?
Non, pas militant. Alors, militant avec des pincettes. Vous savez, dans les années 70, il y avait le fameux néo-polar qui était vraiment un polar militant, un polar politique avec un message social très important et qui était formidable. Hein, Manchette, etc. Enfin, Gerdy et des gens comme ça. Moi, je considère pas que je suis militant parce que ces gens-là avaient un message à faire passer. Déjà, il y avait une idéologie derrière. Dans mes romans, il n'y a pas d'idéologie. Dans les moments, il y a des faits. Je les décortique. Il y a des personnages, il faut pas oublier que pour moi, le cœur du roman, ce sont les personnages, des êtres humains qui traversent des épreuves qu'on pourrait tous traverser. Et à chacun de c'est pas un test de Rorschach, mais presque chacun se fait l'opinion qu'il veut. Il peut prendre le parti de tel personnage. Il y en a qui vont lire le discours de Milton Gay, puisqu'à un moment donné, il parle quand il est dans l'avion.
Oui.
Il explique un peu lui-même, il se justifie. En fait, il explique à Lucia ce qu'il est en train de faire. Et il y en a qui vont penser que il a tout à fait raison. Et puis il y en a d'autres qui vont penser se mettre du côté de Lucia. J'avais fait ça avec la chasse aussi. Je fais ça souvent. Où il y avait le général Thibault Donadieu de Ribe qui voulait remettre de l'ordre dans le pays. Donc il avait créé une espèce de milice parce qu'il estimait justement que la justice dysfonctionnait, qu'elle n'était plus à même de rendre justice. Et il y avait un discours qui était quand même un discours très. Et il y a des lecteurs qui étaient persuadés que c'était mon discours. Donc moi je disais il fallait remettre de l'ordre dans le pays. En fait c'était pas du tout le cas.
C'est le discours du personnage. C'est aussi une forme d'être militant que d'essayer de pousser le lecteur à réveiller son libre arbitre.
Bah, je pense qu'il n'a pas besoin de moi, mais disons que je lui donne quelques, quelques éclairages supplémentaires.
Oui, oui.
Disons que voilà, j'ai quelques informations en plus. Et je lui espère aussi pas mal de suspense et de plaisir à lire, parce que c'est pas un essai, c'est pas non plus... voilà, il se passe plein de choses dans le roman. Et je voudrais insister sur un point qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est qu'on a l'impression que je dresse un tableau apocalyptique de la tech. Mais la tech, ça a aussi des vertus.
Bien sûr.
Dans le domaine médical, par exemple, aujourd'hui, l'IA fait ça permet de faire des progrès considérables, et ça va en faire de plus en plus. Je crois que j'en avais parlé dans un autre roman qui s'appelait M, le bord de l'abîme, où j'ai expliqué qu'il y avait je ne sais plus combien de dizaines de milliers de revues médicales à travers le monde, et des articles qui parlaient de nouvelles découvertes scientifiques, médicales, etc. Et que votre médecin traitant, votre médecin de quartier, ou il n'a pas le cerveau pour absorber toutes ces informations. C'est pas possible. Il peut pas absorber des centaines et des centaines ou des milliers d'articles médicaux, etc. Faire la synthèse de tout ça, il est pas en capacité de le faire. Or, l'IA, elle peut le faire. Elle peut absorber toute cette information scientifique et l'aspirer, la traiter, la synthétiser et tirer, par exemple, un diagnostic d'une maladie rare que votre médecin traitant, il a peut-être jamais vu et peut-être il verra peut-être jamais. Mmh. L'IA est capable de faire ça. Donc à un moment donné, ça a déjà commencé, mais dans certains domaines, l'IA pourra faire des diagnostics et votre médecin traitant sera juste là pour analyser. Et là, par exemple, ça va être des progrès phénoménaux, même pour la fabrication des médicaments, etc. Ça va être des progrès gigantesques pour la médecine. Donc il y a même aussi des aspects très positifs.
Mais en même temps, dans votre livre, vous nous dites bien que justement, il y a tellement d'avancées qui vont tellement vite dans des domaines tellement pointus que les uns ignorent ce qui se passe dans d'autres catégories parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a déjà trop d'informations dans sa spécialité. Mmh. Vous dites aussi qu'à cet endroit-là, c'est quand même la porte ouverte à des théories fumeuses.
Alors ça, c'est encore autre chose. C'est ce qu'on appelle le tunnel des sciences spécialisées. C'est-à-dire que plus on avance dans le domaine scientifique, ça a été vrai en particulier à partir du 19e siècle, les sciences, à l'époque de Léonard de Vinci, ils pouvaient avoir une connaissance totale, encyclopédique, de tout ce qui se faisait en matière de sciences. Parce que la connaissance, aujourd'hui, c'est juste impossible. Un spécialiste de virologie, il sera incapable de lire un article écrit par un physicien, un spécialiste de mécanique quantique, qui ne comprendra rien. Les sciences, plus elles avancent, plus elles creusent profond, plus chacune a son tunnel séparé des autres. C'est comme ça qu'on avance. Les domaines sont tellement pointus, tellement complexes aujourd'hui qu'effectivement, on peut pas connaître tout. On peut être philosophe des sciences comme Étienne Klein, où on a pas mal de connaissances, mais ça va pas au-delà. Donc oui, on a des disciplines scientifiques qui communiquent plus ou moins entre elles, plutôt, et qui chacune sont dans son couloir quelque part. Mais ça, c'est inévitable. Et alors, ça donne effectivement la porte ouverte à d'autres théories qui sont plus ou moins non scientifiques. C'est-à-dire que, mais c'est plutôt la difficulté qu'on a à prouver qu'une théorie est fausse. Parce qu'en fait, c'est Karl Popper qui était un philosophe des sciences qui disait que la différence entre une théorie scientifique et une théorie non scientifique, c'est que la théorie scientifique accepte la possibilité de sa propre réfutation, c'est-à-dire si par l'expérience on vient démontrer qu'elle ne marche pas, alors qu'une théorie non scientifique se considère a priori comme irréfutable. À partir de là, on ne peut pas la contester, parce que si vous la contestez, on va vous dire ben non, c'est parce que vous êtes un incrédule, ou sinon parce que vous êtes un scientiste, ou voilà. C'est la grande différence entre les deux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui considèrent que les théories scientifiques sont des théories, des opinions comme les autres. Or, non, c'est pas vrai. Les théories scientifiques, c'est les seules qui peuvent être réfutées par l'expérience. Pour qu'une théorie, une expérience scientifique marche, il faut qu'on puisse la reproduire. Un gourou, il va vous faire un truc là, et puis hop, il sera incapable de le reproduire le lendemain, parce qu'en fait, c'est la grande différence. Et aujourd'hui, effectivement, il y a le fait que les scientifiques soient tellement spécialisés, ça veut dire qu'ils ont aussi de plus en plus de mal à vulgariser, à partager leurs connaissances, parce que si vous n'avez pas la formation pour, vous n'allez rien comprendre. Hein. Moi, j'ai lu les ouvrages de Stephen Hawking. Il y a des moments où j'étais un peu pas largué, mais bon, il fallait s'accrocher, quoi. Mmh. Et encore, lui, il fait de la vulgarisation. Donc, le fait que ça soit de plus en plus spécialisé, ça devient de plus en plus opaque, mais pas par une volonté d'opacité.
Oui, bien sûr.
C'est parce qu'il faut avoir la connaissance, la formation pour arriver à comprendre tout ça. Donc, ça, c'est la porte ouverte à ceux qui n'y comprennent rien, qui vont dire oui, mais ça, enfin, l'ignorance, tout les certitudes viennent souvent de l'ignorance. Les gens les plus affirmatifs, c'est souvent ceux qui savent le moins. C'est Romain Gary qui disait que il vomissait toutes les vérités absolues et leurs applications totales. Et qui se méfiait, Camus c'est pareil, il se méfiait comme de la peste des gens bardés de certitudes. Et la science c'est aussi le doute. Hein. Mm. Et le doute c'est fécond, il faut douter. Il faut douter de ce qu'on vous dit, il faut douter de ce qu'on vous affirme, y compris de ce qui est raconté dans ce livre, peut-être. Voilà.
Et pour raconter tout ça, alors en fait, vous tapez aussi un peu sur les médias au passage, c'est pas la première fois, parce que finalement, on pourrait imaginer que les médias nous serviraient à comprendre ou à traduire certaines pensées scientifiques, technologiques. Mais à nouveau, dans ce livre, vous les mettez aussi sur la sellette.
Alors, je tape pas tant que ça sur les médias, j'ai tapé.
Vous êtes pas très gentil avec Candice.
Oui, c'est vrai, mais c'est pas les médias, c'est une journaliste people, c'est une journaliste de ce qu'on appelle un tabloïd, un torchon. Il n'y a pas que des tabloïds dans la presse. Et je tapais aussi sur certains présentateurs d'émissions trash dans H,
voilà.
que certains ont cru le reconnaître. Mais parce que c'est des émissions, comment dire, je veux rester poli, mais...
Voilà, on s'est compris.
Mais à côté de ça, il y a toute une presse, au contraire, qui est très utile.
Oui.
Quand ils développent, vous avez des longs formats sur certaines chaînes. Quand vous allez sur Arte ou sur plein d'autres chaînes, même chaîne d'info, etc., vous avez des longs formats qui vous expliquent plein de choses. On va plus loin dans l'information. Vous avez des chaînes YouTube qui sont formidables aussi. Hein. Il y en a qui recommandent n'importe quoi, mais il y en a qui sont très bien. Donc, non, je suis pas. Il y a cette critique des médias mainstream, elle est beaucoup dans la tech.
Oui.
Parce qu'ils ont cette idéologie. C'est quasiment des complotistes. Hein. Donc, ils ont cette idéologie que finalement, les médias mainstream, parce que ça les arrange pas, parce que les médias mainstream les contrarient. Et il faut pas faire de généralité. Il y a des médias qui sont très bien. Et puis, il y a les émissions les plus racoleuses. Il y a certaines chaînes YouTube complètement farfelues et complotistes. Il y a à boire et à manger.
Il y a du tri à faire.
J'ai jamais dit que tous les médias étaient achetés, jamais de la vie.
Non, mais j'ai pas dit ça non plus.
Ah bon.
J'ai dit que vous étiez pas tendre avec la presse.
D'ailleurs,
j'ai parlé de presse écrite surtout.
Mais avec une certaine presse, les tabloïds, les choses comme ça.
Absolument. Mmh. Comment vous faites pour pouvoir avoir le rythme très nerveux et tendu que vous avez pour raconter tout ça? C'est toujours des chapitres assez courts.
Ouais.
Et alors, vraiment, on a l'impression que le dialogue est un élément essentiel.
Ah ben, le dialogue est très important. Ouais. C'est ce que je dis quand je fais des masterclass pour des apprentis auteurs. Il y en a plein, les apprentis auteurs dans ce pays, je peux vous dire. Ils sont nombreux. Et alors après, ouais. Je leur donne des trucs, mais pas tout quand même, parce que sinon, après, ils vont prendre ma place. Je leur dis, parlez vos personnages le plus vite possible. Parce que les dialogues, c'est la vie. Vos personnages, ils prennent vie à partir du moment où ils parlent. Et là, tout d'un coup, on comprend un peu la psyché du personnage, on comprend comment il fonctionne, etc. Et puis, on le voit vivre et il sort de la page, quelque part. Les descriptions, les portraits, tout ça, c'est bien, mais faites parler vos personnages le plus vite possible. Et en plus, moi, je m'amuse beaucoup à dialoguer. C'est très rigolo à faire. Parce que chaque personnage a sa façon de s'exprimer, a ses mécanismes, et ça dit beaucoup aussi du personnage.
Indirectement, est-ce que vous nous parlez de nous quand vous parlez de Lucia qui va démarrer son enquête devant un très gros tableau blanc, un très grand tableau blanc, qu'elle va petit à petit remplir d'éléments?
Oui, je vous signale que Rupture, le prologue, ça commence par une personne qui est sur scène sous les projecteurs et qui s'adresse à un public.
Oui.
Ça commence comme ça.
D'accord.
Donc, bien sûr. Mais,
en cela, nous démarrons votre livre en ce moment.
C'est ça, en quelque sorte. En fait, oui, c'est un peu ça. C'est la traversée du miroir. Après, je l'ai souvent dit, la lecture, c'est l'activité la plus participative qui soit. Quand on regarde un film, quand on écoute... un concert, on est avec, souvent avec d'autres gens à côté, et puis on reçoit des images, on reçoit des sons, mais on participe pas. Dans un concert, on peut participer si on se met à danser ou à chanter, mais c'est pas pareil. Quand on lit un livre, on participe en fait. On est co-auteur du livre parce que l'auteur il peut pas mettre tous les détails, tout décrire. On n'est plus chez Balzac où on décrit tout de pied en cap, ou de la pièce, il faut 3 pages pour décrire Père Goriot. Je me rappelle, il faut 3 pages. trois pages pour décrire l'armoire, la pièce et tout ça. Après, le personnage, c'est pareil. Nous, aujourd'hui, on donne quelques petits détails significatifs et on laisse, évidemment, au lecteur la place de s'approprier le livre, de combler tous les blancs que l'auteur a laissés. Et il y a autant de versions du livre qu'il y a de lectrices et de lecteurs. C'est ça qui est... Donc le lecteur, il est dans le livre.
Ça veut dire que quand vous écrivez votre livre, vous prenez en considération le personnage lecteur ?
Ah non, ça non. En revanche, non, quand je suis en train d'écrire, je pense ni au lecteur, ni à la lectrice, ni à la critique, ni au je vis tout seul avec mes personnages. J'ai un petit démiurge, je manipule les égos de mes personnages comme j'en ai envie. Et je l'ai souvent dit, je cuisine le plat que j'ai envie de manger, c'est-à-dire que je mets dedans tous les ingrédients que moi, en tant que lecteur, j'aime trouver dans ce genre de roman. Au fond, je. N'est jamais mieux servi que par soi-même, donc je mets vraiment dans mes romans tout ce que moi j'ai envie de trouver dans ce genre de roman. Après, il y a de très bons thrillers en dehors des miens. Hein. Je lis quelques confrères.
Il y a la temporalité aussi est un élément qui est important dans l'écriture du polar. C'est pas la première fois, donc vous nous rappelez l'heure, l'urgence. Ça, c'est un élément indispensable.
Alors, non seulement c'est un élément indispensable, mais c'est le truc le plus embêtant à faire. Gérer le temps, ça, moi j'en suis à mon 14e livre et j'ai toujours autant de mal. Gérer le temps, arriver à trouver, parce que on va pas décrire chaque journée, matin, midi et soir. C'est pas, il faut arriver à saisir le temps, à le contracter. Alors, évidemment, l'enquête se passe en 10 jours, alors qu'une véritable enquête, il faut des mois ou voire des années. Mais il faut arriver à gérer cette gestion du temps. Moi, j'ai énormément de mal. Moi, j'adore les scènes nocturnes, mais je peux pas mettre que des scènes nocturnes. Ils travaillent pas que la nuit, quoi. Donc, il y a aussi le matin. Mais en même temps, vous pouvez pas étirer les journées. Dans une journée, vous pouvez pas mettre tout dans une journée parce que c'est pas réaliste. Mais vous pouvez pas non plus étirer les journées à l'infini. C'est compliqué la gestion du temps.
Pourquoi vous préférez la nuit?
Parce que j'aime bien les scènes nocturnes en général. Parce qu'il y a une atmosphère. Il y a la peur qui s'installe. Il y a le mystère. Il y a le fait qu'on on voit pas ce qui se cache dans l'ombre. Il y a aussi beaucoup de scènes dans les forêts pour la même raison, parce que quand on avance dans une forêt, on voit pas tout du premier coup. On avance dans la forêt, petit à petit, le paysage, la vérité se dévoile et on voit pas ce qui est caché. Moi, j'aime l'art du roman policier, c'est l'art de cacher les choses aussi.
Dans votre livre, à nouveau, il y a des moments où nous, en tant que lecteurs, on se dit « Non mais attention, tu vas voir, enfin tu sais pas, mais il est juste... » Il y a quelque chose presque de guignol, du rapport au guignol quand on est enfant, où on voit la scène avec le personnage principal qui ne la voit pas. Quel lien vous faites entre justement l'enfance et l'univers des polars ?
Alors l'enfance et l'univers des polars, je sais pas, l'enfance c'est mon univers et mes romans, ça, j'ai toujours considéré que j'écrivais des contes de fées pour adultes. C'est pour ça qu'il y a souvent des forêts, il y a souvent un monstre dans la forêt. Dans mon premier roman glacé, il y avait même un cheval au départ. Il y avait un château avec une sorte de belle au bois dormant dans le château. Il y avait dans la vallée aussi, dans la chasse, au début de la chasse, il y a un personnage qui est traqué dans la forêt. C'est Hansel et Gretel, c'est le petit poussé, c'est tout ça. C'est quelque part des contes de fées pour adultes. On est là pour se faire peur aussi.
À propos d'enfance, dans votre livre, il y a deux personnages féminins qui ont un rapport très fort à leur père. Mmh. Emma, qui va être assassinée, un rapport où elle prend soin de son père. Et Lucia a ce côté aussi de vouloir être importante aux yeux de son père. Mmh. Pourquoi le père ?
Et de son fils.
De son fils, d'accord, mais non, ne changez pas ma question. Pourquoi le... Pourquoi le père ?
Peut-être parce que le père, pour quelqu'un comme moi, de ma génération, enfin, même pas pour un homme, c'est quelque chose de... C'est la figure paternelle, c'est toujours important. Il faut déjà la dépasser, hein, pour arriver à s'émanciper, à s'exprimer, à s'épanouir. Il faut arriver à la dépasser. C'est quand même quelque chose d'assez... Alors, dans la psychanalyse, on dit que c'est le soleil, le père, quelque chose comme ça. Et au fond, moi, mon père, il m'a quand même appris. Il était professeur, mon père. Donc, il avait ce goût de la transmission. Et moi, je lui suis reconnaissant pour une chose. À l'époque, il n'y avait pas d'internet. Il y avait deux chaînes de télé. Quand j'étais petit garçon, on était dans un village de 2000 habitants, donc il y avait la presse papier, mais bon, c'était pas pour moi. Il y avait aussi des petits magazines pour les jeunes, mais il y avait surtout les encyclopédies. Il y avait des colporteurs qui passaient de maison en maison pour vendre leurs encyclopédies. Et mon père m'avait acheté Tout l'univers, qui était la grande encyclopédie de l'époque. Et moi, j'ai appris énormément de choses à travers Tout l'univers, qui porte bien son nom, pour le coup. J'ai découvert le cinéma à travers Tout l'univers, l'Odyssée à travers Tout l'univers, parce que c'était des épisodes comme ça. Et après, j'ai eu l'encyclopédie Larousse. Mon père adorait acheter des encyclopédies. Donc, ça a été ma première fenêtre ouverte sur le monde. Et donc, ça, j'en suis extrêmement reconnaissant. Et puis, je pense que le... Après, les mères sont aussi importantes dans le livre. Déjà, les premières sont assassinées. Hein, Lucia, il y a son rapport avec Alvaro aussi,
oui,
son fils adolescent. Il y a aussi la place de la mère est quand même assez importante. Il n'y a
pourquoi
pas que les pères. Bah, parce que je pense que pour vos parents, j'imagine, ils ont une certaine importance dans votre vie, comme les miens en avaient. Donc,
Non, c'est pas moi qui réponds aux questions, c'est vous.
Oui, d'accord.
Pourquoi
c'est comme au commissariat de police, alors c'est pareil. D'accord.
Pourquoi là, il y a ça aussi en filigrane quand même, la parentalité alors.
Ben oui, mais
dans ce livre.
Ben oui, c'est le sujet, la natalité, la parentalité, c'est les deux grands sujets du livre.
Et alors, du coup, par exemple, en écrivant ce livre, en commençant ce livre, quelles sont les premières questions que vous vous êtes posées au sujet de la parentalité?
Ben, le début du livre, en fait, il m'est venu pas tellement à cause de ça, il m'est venu à cause de cette panne électrique.
Mmh.
Où je me suis dit, c'est vraiment, comme je voulais reprendre Lucia, c'est vraiment le moment où il faut que je dois exploiter ce moment, parce que ça n'arrivera pas deux fois. Et la deuxième idée m'est venue en découvrant que ces géants de la tech étaient obsédés par le fait de faire des enfants. Et donc, à partir de là, il suffit de tirer sur la pelote et le fil venait tout seul. Hein. C'était la parentalité, la natalité, le gap générationnel aussi, toutes ces choses-là.
Mais personnellement, si je vous dis parentalité, ça vous fait penser à quoi?
Là, tout de suite, rien. je pense que j'ai mon fils à la maison, à Paris, qui est venu d'Aix-en-Provence et je suis là à Bordeaux pendant ce temps, mais j'y retourne demain.
Il y a autre chose qui est intéressante dans votre livre et qui fait penser justement à le principe de la série telle qu'on l'a connue à d'autres époques, à la radio ou dans la presse, justement, avec des personnages que vous avez qui reviennent, qui sont récurrents, qu'on suit.
Oui, le feuilleton.
Voilà, le feuilleton, exactement. Puisque vous faites référence aussi dans chaque livre aux épisodes d'avant. Lucia, on la retrouve effectivement avec des références qu'on connaît bien. Quel rapport vous avez eu avec la série, justement, soit dans la presse ou à la radio, peut-être?
Ah ben moi, j'ai grandi aussi avec des feuilletons. Moi, j'étais abonné au journal de Tintin quand j'étais gamin. J'étais à des choses comme ça. Donc, les aventures de Tintin ou tous les personnages qui étaient présents là-dedans, de semaine à semaine, on attendait la suite. Et puis, j'ai regardé beaucoup de séries télé quand j'étais enfant. J'en regarde encore aujourd'hui pas mal parce que sur les plateformes, il y a quand même des choses assez intéressantes qui sont proposées.
Oui, d'ailleurs, vous en citez plusieurs dans ce livre.
Ah ouais,
entre autres. Oui, vous citez des séries. Moi, j'ai découvert des séries grâce à vous.
Oui, Yellowstone.
Voilà, j'ai découvert Yellowstone.
Oui, pour dire que c'est un peu caricatural, d'ailleurs.
Peut-être, en attendant, ce que vous nous amenez aussi à observer la culture.
Bien sûr.
La culture
pop, la culture musique classique avec Malheur, quand c'est Servaz qui écoute Malheur. Mais parce que j'adore partager. Moi, dès que j'apprends quelque chose, j'ai envie de le partager. Dès que je découvre quelque chose, j'ai envie de le partager.
Mais ça veut dire aussi cette histoire de feuilleton, de série et de personnages que vous gardez avec vous. Ça veut dire aussi que vous avez envie de rester avec eux.
Oui. J'aime bien être avec mes personnages. C'est parce qu'en fait, quand je suis avec mes personnages, c'est moi qui ai la main, quoi. Je leur fais faire ce que je veux. Si je peux les faire taire quand je veux, je peux leur demander de faire ceci ou cela. Ils sont toujours d'accord pour le faire.
Oui, mais vous pourriez avoir des nouveaux personnages, des nouveaux héros ou héroïnes qui mèneraient l'enquête. Mais en fait, on retrouve vos personnages. Et pourquoi on les retrouve? Quel rapport vous avez avec eux?
En fait, moi, Servaz, j'ai parfois presque l'impression qu'il fait partie de ma vie. Et Lucia Guerrero, de plus en plus. Alors après, Lucia, c'est un peu particulier parce qu'elle a un modèle dans la vie réelle qui lui ressemble beaucoup. Donc du coup, moi, je fais un va-et-vient permanent entre le modèle et le personnage. Mais Servaz, j'ai créé toute pièce. Quand j'ai écrit Glacé, je m'imaginerais pas qu'il prendrait une telle place dans ma vie. Aujourd'hui, effectivement, j'ai presque parfois l'impression qu'il existe, quoi, qu'il est quelque part en train de se balader du côté de Toulouse.
Quand vous étiez petit, vous aviez un ami imaginaire?
Comment?
Quand vous étiez
non,
petit?
Même pas. Non, j'ai pas. Non, j'ai pas eu.
Il y a un côté comme ça. Il y a un côté de l'ami imaginaire, quand même.
Oui, complètement. Mais en plus, je lui fais. Maintenant, je le connais tellement bien, et mes lectrices et mes lecteurs aussi le connaissent très bien. Parfois même presque mieux que moi, parce que moi, les premiers livres, je les ai écrits il y a très longtemps. Enfin, il y a longtemps. Et je le connais tellement bien que maintenant je sais qu'il y a des choses que je peux pas lui faire dire ou faire faire. Qu'il a, il y a des limites au personnage. Quand j'ai commencé par écrire Glacé ou Le Cercle, j'aurais pu lui faire faire n'importe quoi à peu près. Même s'il avait déjà le vertige, il avait peur de la vitesse, il avait des choses comme ça, donc il était limité aussi.
Oui, parce que j'allais vous dire, vous n'êtes pas tendre avec eux. Ils sont quand même un peu, ils sont malmenés aussi parfois. Et là, à nouveau, Lucia n'est pas que en bonne ouais. posture. Hein. On ne va pas le dévoiler, mais donc vous les oui, épargnez non,
c'est
pas. Hein.
C'est pas une chose amusante qui lui arrive. Non. Mais parce qu'en fait, c'est comme ça que mes lectrices et mes lecteurs s'attachent à eux. Si baigner dans le bonheur, ça n'a aucun intérêt, tout le monde s'ennuierait. Là, le thriller, c'est un exercice d'extrême empathie. Donc on provoque, parce que c'est les tourments qu'ils traversent, en dehors de l'enquête policière, hein, j'entends. C'est aussi ce qu'on traverse tous dans nos vies, ce qu'on affronte tous, c'est des épreuves communes. À côté de l'enquête policière, il y a la vie qui passe, et donc ça provoque l'identification, en tout cas l'attachement des lectrices et des lecteurs à ces personnages, et à partir de là, ils sont prêts à les suivre jusqu'au bout. C'est là où ça fonctionne. C'est quand l'actrice ou le lecteur veut savoir ce qui arrive au personnage, quand il veut qu'il réussisse, et quand il a peur qu'il échoue. Je l'ai souvent dit, la peur de l'échec, c'est un outil extrêmement puissant pour obtenir l'adhésion des lecteurs.
Donc finalement, pour finir, Bernard Minier, ce qu'on pourrait dire de votre écriture, c'est que ce qu'il y a de vous, c'est que vous êtes un type extrêmement fidèle et loyal, alors.
À qui ? À mes lecteurs, à mes personnages ou...
D'une façon générale ?
Je sais pas, faudrait demander aux gens qui m'entourent.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, moi je pense que je suis assez réglo, ouais.
Merci beaucoup Bernard Minier.
Merci à vous.